Les gens qui ont créé l'intelligence artificielle, au départ, étaient des mathématiciens qui faisaient de la logique, essentiellement. Mais au tout début, ils ont bien vu qu'il y aurait peut-être des difficultés à résoudre des problèmes d'intelligence artificielle uniquement avec la logique. Et puis, manque de chance, est arrivée, disons, la Seconde Guerre mondiale et l'explosion de l'ordinateur. Et là, miracle, on avait une machine qui était capable de faire des raisonnements logiques à la vitesse de la lumière. Et donc tout le monde s'est engouffré dans cette voie, c'est-à-dire que on avait, alors que mathématiquement, tout ce qui était raisonnement logique était bien clair finalement depuis au moins 50 ans, même un peu plus, tout d'un coup, on a eu un objet qui permettait de me mettre ça en application et de faire tourner cette mécanique logique dans tous les sens, etc. D'ailleurs, avec quel succès, je veux dire, 50 ans après, ça sert à faire des milliers de choses. Donc du coup, l'intelligence artificielle a été aspirée par ce mouvement autour de l'ordinateur, s'est engouffrée là-dedans et pendant des années a travaillé là-dedans, d'ailleurs avec beaucoup de succès. Et puis, petit à petit, on s'est malgré tout rendu compte que ça ne résolvait pas tous les problèmes. Disons que en intelligence artificielle, historiquement, pendant des années, et puis dans les sciences de la vie, les sciences cognitives, disons les gens qui réfléchissent sur le cerveau, sur les capacités du système nerveux, l'analogie dominante, disons le modèle, c'était l'ordinateur. L'ordinateur avec ses capacités de raisonnement logique. Donc en gros, toutes les décisions sensorimotrices que peut prendre un être vivant étaient vues comme une espèce de démonstration de théorème. D'ailleurs, il y a 40, 50 ça, les papes de l'intelligence artificielle ont mis au point des programmes de démonstration de théorème. Et ils étaient tellement persuadés qu'ils avaient la clé que Minsky, par exemple, donc c'est un des grands noms, une fois qu'il avait ce démonstrateur automatique de théorème, a pris un étudiant pendant 6 mois et il lui a dit, ben avec ça, tu vas me faire un système de vision qui va être capable de regarder ce qui se passe et puis de réagir en fonction de ce qu'il voit. Il lui a donné 6 mois pour le faire. Et 45 ans après, on est encore très loin du but et il n'y a pas qu'une personne qui a travaillé sur le sujet, quoi. Donc, tout ce qui est perception, action, prise de décision, etc., n'est pas la preuve d'un théorème. Enfin, dès qu'on est dans un environnement qui n'est pas spécifique au robot et parfaitement maîtrisé, on n'arrive pas à construire un modèle mathématique exact de ce qui se passe dans cet environnement. C'est-à-dire, il y a toujours ce que les physiciens appellent des variables cachées. C'est très simple, c'est des choses qui influencent le système qu'on est en train d'étudier, le robot par exemple en train d'interagir avec son environnement. Ça influence ce système et c'est pas pris en compte dans le modèle mathématique qui représente le système. Donc l'idée, c'est à partir du moment où on est dans une situation comme ça, où on a beaucoup d'incertitudes et puis ce qu'on appelle l'incomplétude, c'est-à-dire les informations qui manquent. Eh bien, il y a un outil mathématique qui se prête bien à faire ce genre de choses, qui sont les probabilités. À partir de là, depuis une quinzaine d'années maintenant, on travaille sur essayer de programmer les robots avec des modèles de type probabiliste. Alors, je peux ouvrir peut-être une parenthèse, c'est que d'une certaine manière, les êtres vivants sont exactement dans la même situation. C'est-à-dire qu'on doit prendre des décisions en permanence, en n'ayant que très peu d'informations pour les prendre. Et donc, ils sont en fait en perpétuelle situation de faire des espèces de paris sur les actions qu'ils doivent faire et les décisions qu'ils doivent prendre. On n'est pas en train de jouer aux échecs, c'est-à-dire que on est dans un monde où il se passe tout un tas de choses qui ne sont pas modélisées. Dans les gens qui travaillent ici, on s'intéresse à faire des robots qui aient une certaine capacité d'autonomie et donc être capable de se débrouiller dans des environnements qui ont été conçus, pas pour les robots, mais par exemple les couloirs du laboratoire. Ils ont été conçus a priori pour les gens qui sont dans ce labo et pas pour les robots. Et donc il y a plein de choses que les robots ont du mal à percevoir, à appréhender. Donc ça, c'est déjà une grande différence entre la robotique industrielle et la robotique autonome, qui est-ce que je suis dans un environnement qui a été conçu pour moi? Ça, c'est les robots industriels. Un robot de peinture, c'est dans une cage où tout est contrôlé, les hommes rentrent pas, la lumière est toujours la même, le soleil va jamais rentrer à l'intérieur. Et en gros, quand il y a quelque chose de pas normal qui se passe, le robot est foutu, quoi. Souvent, il plie la voiture, d'ailleurs, par exemple, si elle arrive un peu de travers. J'ai travaillé chez Renault à un moment où je cherchais à m'acheter une voiture, et c'était l'époque des 4L, et les robots de Renault pliaient des 4L à longueur de journée, ça me crispait terriblement. Voilà, donc ça, c'est le premier cas, c'est l'environnement est contrôlé. Et deuxième cas, c'est l'environnement n'est pas contrôlé. Et tout devient immédiatement beaucoup plus difficile. Donc c'est peut-être une des premières caractéristiques de l'intelligence, quoi. Une grande différence entre un automate et puis un robot qui a cette capacité, plus ou moins grande, à réagir à des événements imprévus ou pas parfaitement modélisés. Chez les animaux, quelle perception ils ont de la qualité des objets ou même de l'existence des objets autour d'eux. J'ai discuté une fois avec une éthologue. Donc malheureusement, c'est pas une expérience, vous allez voir pourquoi, c'est une anecdote. Donc elle travaille avec des loups. Donc les loups, c'est tout de même un animal supérieur, remarquablement intelligent par plein de points de vue. Ils sont dans un grand enclos. Et puis il y a une louve qui a eu des petits, une portée de petits. Et puis malheureusement, l'endroit où elle avait caché ses petits était en train de s'effondrer ou je sais pas quoi. Donc ils ont dû intervenir là-dessus. Donc ça, c'est délicat parce qu'ils voulaient pas mettre la rôdeur, etc. Donc ils ont éloigné la louve, ils ont enlevé les petits avec toutes les précautions, ils ont consolidé le gîte de la louve. Et puis ils se sont dit, comment on va faire pour que la louve retrouve ses petits? Et ils ont eu une idée qu'ils pensaient géniale, c'est qu'ils se sont dit, il y a un endroit où elle va très souvent, qui est l'endroit où elle mange. Et donc ils ont mis les louveteaux à l'endroit où la louve mangeait. Et là, elle est rentrée dans un espèce de comportement pathologique qui faisait qu'elle ne... À quelques secondes d'intervalle, elle s'occupait de ses petits comme si c'était ses petits. Et dans les quelques secondes plus tard, elle commençait à les bouffer comme si c'était de la nourriture. Et donc même une louve qui est mise dans une situation sensorielle extrêmement bizarre, à laquelle elle n'a pas l'habitude, eh ben elle n'est pas en fait capable de manière parfaitement définie d'identifier ses petits comme étant ses petits et comme n'étant pas de la nourriture. Alors qu'elle en est tout de même parfaitement capable dans tous les autres cas. Donc ça veut dire que la notion de petit pour une louve et de nourriture pour une louve n'est peut-être même pas aussi claire qu'on pourrait le croire.